Avec l'aide du Seigneur, ce soir, j'aimerais vous proposer 5 points. On a 5 doigts, c'est facile à retenir, mais on aura encore quelques versets. La dernière fois, on avait toute une liste de versets à lire. Mais on va prendre un peu moins de versets ce soir. Le premier point que j'aimerais mentionner, c'est le secret de la croissance spirituelle. On est d'accord, on a tous besoin de croître. Un bébé ne peut pas rester un bébé, c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Il faut que le bébé croisse. Et chaque croyant, lorsqu'il est né de nouveau, ce moment-là, il est un bébé. Il faut qu'il croisse spirituellement. Et on a vu l'exemple du Seigneur Jésus, dans Luc 2. On a vu d'autres exemples avec les disciples. Et on a vu qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est assis aux pieds du Seigneur Jésus pour apprendre de lui, mais aussi pour mettre en pratique cet enseignement et pour suivre le Seigneur Jésus. Suivre le Seigneur Jésus veut dire faire ce qu'il nous enseigne. Et la dernière fois, nous avons vu beaucoup d'exemples. Il est allé devant nous. Nous avons à le suivre. Il est déjà dans la gloire. Nous sommes en chemin pour aller là. Et chaque pas nous amène plus proche de la gloire. Donc ce soir, j'aimerais souligner 5 points encore par rapport à la croissance spirituelle. Le secret, le premier point, c'est le secret. Et j'aimerais, avant qu'on parle de Éphésiens 4, j'aimerais lire un verset dans Jean 3. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30. C'est une parole de Jean le baptiseur. Jean le baptiseur, il était le plus grand prophète. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 3, verset 30? Il faut que lui, c'est le Seigneur Jésus, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Voilà le secret pour la croissance spirituelle. C'est une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et Jean le baptiseur était tellement heureux d'avoir cette connaissance, de connaître le Seigneur Jésus, le Messie, mais aussi le connaître comme son sauveur, le connaître comme son maître. Et Jean a dit, il faut que lui croisse. Ça veut dire qu'il reçoive une place plus importante dans ma vie. Il faut. Brièvement, dans Jean 3, vous le savez peut-être déjà, mais il y a 3 « il faut » dans Jean. Jean 3, verset 3. « Il faut être né de nouveau. » Et on a vu avec la croissance spirituelle, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il faut d'abord être né de nouveau. On ne peut pas croître si on n'a pas la vie nouvelle. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas faire de progrès. Donc, première, il faut être né de nouveau. Jean 3, verset 3. Et il y avait un deuxième il faut dans ce chapitre. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Le Seigneur le dit de cette façon-là au verset 14. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tout le monde ici croit au Seigneur Jésus? C'est une question de vie ou de mort. C'est essentiel. Sans cette vie-là, vous êtes perdu. Le Seigneur a dit, il faut être né de nouveau. Et pour cela, il fallait qu'il soit élevé à la croix, qu'il se donne en sacrifice. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et maintenant, dans le même chapitre, on a ce secret de la croissance spirituelle. Il faut qu'il croisse. Mais vous dites, mais le Seigneur Jésus est déjà grand? Oui, amen. Il est grand, lui il ne peut pas devenir plus grand qu'il est déjà, mais il peut devenir plus grand en dedans de nous, il peut recevoir plus de place dans nos vies. C'est ça le secret pour la vie, pour la croissance spirituelle. Développer une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Être assis à ses pieds, apprendre de lui, recevoir la nourriture spirituelle de lui, lui donner plus de place dans ma vie. Est-ce que vous pouvez dire, j'ai donné déjà toute la place au Seigneur Jésus. Il n'y a aucun millimètre dans ma vie, aucun centimètre carré qui n'est pas donné au Seigneur Jésus. Ben, bravo! Mais en général, on doit dire, avec Jean le Baptiseur, il faut que lui croisse. On doit encore lui donner plus de place. Peut-être c'est une question de lui donner plus de temps dans ma vie, plus de dévouement. On va revenir au dévouement. Ou une autre question. Le Seigneur le sait. Et le Seigneur nous parle. Il faut que lui croisse. Donc pour faire des progrès, il faut lui donner toute la place. Ça, c'est le premier point. Et ça continue tout le temps. Cette relation personnelle avec le Seigneur Jésus, il faut cultiver cette relation. Ce n'est pas une question que vous êtes sauvé aujourd'hui, donc maintenant vous pouvez juste faire ce que vous voulez. Non, c'est une question maintenant d'écouter, être à ses pieds, apprendre de lui. On a vu cela aussi une fois. Le deuxième point ce soir, pour la croissance spirituelle, on a besoin d'une œuvre de Dieu. Et je concentre maintenant sur la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu opère en nous. Donc que la parole de Dieu puisse produire quelque chose en nous. Quelques versets pour souligner ce point. Lorsqu'on a étudié le livre des Actes, on a vu le progrès dans le livre des Actes. Et souvent, on a vu que ce progrès était opéré par la parole de Dieu. Si vous voulez tourner, Actes 6, verset 7. Actes 6, verset 7. La parole de Dieu croissait et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. La parole de Dieu a agi. Et il y avait même des sacrificateurs qui étaient des opposants, des ennemis. Mais ils ont vu la grandeur du Seigneur Jésus qui était maintenant dans la gloire. Ils ont vu le miracle, les miracles que les disciples et les apôtres ont opérés. Ils ont cru. C'est le résultat de la parole de Dieu. Et ainsi, la parole croissait. Mais ici, il faut que la parole puisse croître aussi en nous. Un autre exemple, chapitre 12, verset 24. Acte 12, verset 24. Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait. Pourquoi je lis ce verset aussi? C'est dans le contexte d'une œuvre de l'ennemi. Bien-aimés, autour de nous, l'ennemi rôde comme un lion qui cherche à nous dévorer. Peut-être vous dites même, moi je remarque pas ça, mais on vit dans un monde très dangereux et l'ennemi est autour de nous pour essayer de nous dévorer. Mais là, on voit la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut nous protéger, la parole de Dieu peut nous donner la nourriture, ce dont nous avons besoin. La parole de Dieu peut nous donner la force pour être des soldats, des hommes faits pour pouvoir être fort et résister à l'ennemi. La parole de Dieu va produire quelque chose. Encore un exemple, Acte 19, verset 20. Acte 19, verset 20. À Éphèse, le centre de l'occultisme dans ce temps-là, on lit au verset 20, « C'est avec une telle puissance que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. » C'est la parole du Seigneur. Il est Seigneur, il a toute autorité. C'est la parole de Dieu, mais c'est aussi la parole du Seigneur. Est-ce qu'on lui donne le contrôle dans nos vies? Est-ce qu'on se soumet à lui? Là, il peut agir, là, il peut produire quelque chose. Tournez avec moi dans, dans 1 Corinthiens 3. Tantôt, j'ai parlé d'un secret pour la croissance spirituelle, donner toute la place au Seigneur Jésus. Le deuxième point, ce soir, pour pouvoir croître, pour faire des progrès pour la formation spirituelle, c'est donner toute la place à la parole de Dieu aussi, pour que la parole de Dieu puisse opérer en nous. Comme dans les actes, on voit maintenant dans 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7, moi, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Verset 7. De sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Vous voyez, un autre secret, c'est Dieu qui opère par sa parole. C'est Dieu qui va donner du progrès. Ce n'est pas par mon effort. S'il y avait un homme intelligent et dévoué et fort spirituellement, c'était l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne dépend pas de mes efforts. Moi, je ne suis rien. Ce n'est pas de celui qui plante. Il avait planté, il avait fait un travail important. Mais ça dépendait de Dieu. Apollos avait aidé aussi, il avait un beau service. Mais il fallait que Dieu opère par sa parole. Ok? Donc on a ici un élément pour la croissance spirituelle. Sans la parole de Dieu, il n'y aura pas de croissance. Tournez avec moi à Colossiens 3. Donc on parle de la parole de Dieu pour la croissance spirituelle. Colossiens, premier chapitre, versets 5 et 6. L'épître aux Colossiens, premier chapitre, verset 5. Paul parle ici dans sa lettre, aux croyants qu'il n'a jamais vu. Il ne nous a jamais vu non plus, mais il nous a envoyé cette lettre. Verset 5. L'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez déjà entendu parler dans la parole de la vérité de l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, comme aussi il est dans tout le monde et qui porte du fruit et croît, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, comme vous l'avez entendu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Mon point est ici, le verset 6, ou à la fin du verset 5, la parole de la vérité. C'est cette parole qui a opéré. C'est cette parole qui a produit quelque chose. Et on a vu au verset 6, qui porte du fruit et qui continue à croître, à grandir. Vous voyez, la parole de Dieu produit quelque chose. C'est comme une semence, et cette semence va croître. Ça va produire du fruit, et plus de fruit. Il est vrai, pour cela, il faut garder la communion avec le Seigneur Jésus. Donc le premier point, cultiver la communion avec le Seigneur Jésus, et le deuxième point, sont intimement liés. La parole opère en même temps pour produire cette croissance. Regardons verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Mais c'est un beau verset. Ainsi, nous voyons que cette parole porte du fruit en toute bonne œuvre et que ça continue croissant par la connaissance de Dieu. Et verset 11 dit, « Étant fortifié en toute force, selon la puissance de sa gloire. » C'est lui qui opère. C'est sa parole qui produit cette croissance. Mais c'est les croyants qui ont cru. C'est les croyants qui ont obéi. Donc, est-ce qu'on donne toute la place à la parole de Dieu? On ne peut pas surestimer l'importance de la parole de Dieu pour produire cette croissance en nous. Donc le premier point, cultiver une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Le deuxième point pour la croissance donner toute la place à la parole de Dieu et qu'on réalise que c'est cette parole qui va produire du fruit. Pas mon effort. Si même l'apôtre Paul ne pouvait pas être dépendant de ses propres efforts, combien moins nous. Le troisième point pour ce soir, c'est une question qui est très facile à comprendre. Ça prend un engagement. Tournons à Romains 12. Romains 12, c'est un passage bien connu, mais ça nous aide à comprendre ce point d'un engagement de notre côté, d'un dévouement de notre côté. Lisons d'abord ces deux versets. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. On pourrait parler toute une soirée juste sur ces deux versets. Mais dans ce contexte de la croissance spirituelle, j'aimerais donc souligner l'importance d'une réponse, présenter nos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Et cette réponse implique un dévouement. Cette réponse implique un engagement. Et cet engagement est d'un côté négatif, verset 2, ne vous conformez pas à ce siècle. Ça c'est la façon de faire de ce monde, les principes de ce monde, comment ce monde déroule. L'apôtre ne veut pas qu'on se conforme, qu'on entre dans cette moule-là. Plutôt, il souligne au verset 2, au milieu, « Soyez transformés ». Qu'est-ce que ça veut dire, être transformé? Pour aider à comprendre, je donne un exemple que les jeunes peuvent comprendre aussi. Vous savez comment un papillon vient d'une chenille. Lorsqu'on voit la chenille sur l'arbre, sur une feuille verte, on n'aurait aucune idée que de cette chenille, à un moment donné, il y aurait un papillon. C'est un exemple dans la nature de cette transformation que la parole de Dieu va opérer. On a vu cela dans le deuxième point. La parole de Dieu va produire quelque chose. La parole de Dieu va opérer en vous et moi une transformation. On est en train d'étudier le sujet la croissance spirituelle, ou j'ai dit, ou la formation spirituelle. Cette formation est aussi une transformation. Nous étions de notre nature comme la chenille, mange seulement et dévore. Mais là, Dieu a opéré un changement, une transformation. C'est par la parole de Dieu, par un travail de l'Esprit de Dieu, c'est parce que le Seigneur Jésus est entré dans nos vies. Est-ce que le Seigneur Jésus est déjà entré dans votre vie? Quel visiteur! Arrêtons juste un moment. Le Seigneur Jésus est à la porte et il dit, ouvre la porte, laisse-moi entrer le plus grand visiteur. Moi je veux être dans ta vie. Moi je veux contrôler. Moi je veux te rendre heureux. Mais pour cela, il faut qu'on lui donne toute la place, comme Jean le Baptiseur, qu'on donne aussi la place à la parole de Dieu. Ainsi, il y aura une transformation. Donc le troisième point, c'est un engagement de notre côté. Oui, Seigneur Jésus, je veux que tu aies toute la place. Je veux ouvrir la porte pour toi. Je veux donner la place à la parole de Dieu. Je veux prendre du temps. Mais ça ne dépend pas de mes propres efforts, je le dis tout de suite. Ça prend un travail de Dieu, on a vu cela. Mais ça prend donc de notre côté ce dévouement, cet engagement, par amour pour le Seigneur Jésus qui s'est donné lui-même pour nous. Dans ce contexte-là, J'aimerais vous proposer le quatrième point. La transformation est pour un but important. Pour devenir conforme, formation, transformation, pour être conforme à l'image du Seigneur Jésus. Retournons Romains 8. Romains 8, quelques pages en arrière. Donc on aborde maintenant le quatrième point qui sera un peu plus long. Romains 8, verset 29. Mais je vais lire 28, 29 et 30 pour avoir le contexte. Et de nouveau, ce serait un passage, on pourrait avoir toute une réunion juste sur ces quelques versets. Romains 8, 28. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos, verset 29, car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être, maintenant le secret, à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre beaucoup de frères. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Merveilleux! Mais je veux maintenant juste concentrer sur cette pensée-là, au verset 29, prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. Ça, c'est le plan de Dieu, dès l'éternité passée. Et dans le temps, il opère maintenant par sa parole, par notre engagement, Romains 12, versets 1 et 2, pour opérer cette transformation par son esprit. C'est merveilleux. Et j'aimerais lier cela maintenant au passage qu'on a lu au début, Éphésiens 4, versets 12 à 16. Donc, gardons cette pensée dans nos cœurs. Le plan de Dieu est de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Le plan de Dieu est d'avoir beaucoup de fils autour du Seigneur Jésus, le premier-né entre beaucoup de frères. Et il aime donc qu'on puisse développer cette relation personnelle avec lui, le secret qu'on a vu, que la parole puisse opérer dans nos vies. Et dans le contexte de ce dévouement, il va y avoir des résultats. Éphésiens 4. Il va y avoir des résultats à court terme, des résultats à long terme. Donc maintenant, juste le contexte, brièvement. Paul est en prison. Pourquoi ? Un criminel ? Non, bien sûr pas. Bien sûr que non. Il était là comme prisonnier du Seigneur. Il était là en prison parce qu'il était un témoin du Seigneur Jésus dans la gloire. Et l'ennemi n'aime pas ça. Mais le Seigneur avait permis cela. Et on voit qu'il souffre pour la vérité. Et là, au début du chapitre 4, il parle de l'unité. Il a souffert parce qu'il a présenté une vérité qui était tout à fait nouvelle. Que des croyants parmi les Juifs, des croyants parmi les nations, mis ensemble dans un seul corps, forme une nouvelle unité. Je ne veux pas parler maintenant des conditions qui sont nécessaires de notre côté pour pratiquement avoir cette unité. Mais je parle maintenant de ce fait-là, il a souffert pour la vérité, de l'unité. Et aussi, nous voyons qu'il parle de la diversité dans ce corps. Chaque membre a un don, verset 7. Chacun de nous a la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Christ est dans la gloire et il a donné à chaque croyant au moins un don et souvent plus qu'un don. Donc chaque croyant ici, je ne sais pas si vous êtes tous déjà nés de nouveau, j'espère, mais chaque croyant ici a au moins un don. Est-ce que vous utilisez ce don? Ou est-ce que vous mettez ce don sous le tapis? Non. Le Seigneur veut qu'on utilise ce don pour sa gloire. Il y a des dons aussi très spéciaux, spécifiques, apôtres, évangélistes, versets 11 et 12. Ça, c'est très spécial. Les apôtres et les prophètes ne sont plus avec nous. On les a seulement dans les écrits du Nouveau Testament. Ils ne vivent plus. On a encore aujourd'hui, peut-être, des évangélistes, on a encore des pasteurs, des docteurs. Être pasteur, c'est un travail très difficile. C'est très demandant. Ça demande beaucoup d'énergie. On pense à Jacob, dans l'Ancien Testament, il avait un troupeau de brebis, il n'avait pas de sommeil. Ça prenait trop d'énergie. Donc, c'est plus facile d'être docteur pour présenter la vérité, mais c'est un don très spécial d'être pasteur. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Le but de tout cela, c'est ça que je voulais souligner. Nous avons tous un don. Et il y a aussi des dons spécifiques pour quel but? Verset 12. C'est là où on a commencé à lire ce soir. En vue de la perfection des saints. La perfection des saints veut dire que les saints doivent être équipés, que les saints doivent grandir, ils doivent devenir matures. Vous connaissez ce mot maturité? Si on reste un petit bébé, on a dit tantôt, on était tous d'accord là-dessus, c'est pas bon que le bébé reste un bébé, il faut qu'il croisse. Ça c'est la maturité. Donc le Seigneur veut que nous croissions vers la maturité. Verset 12, en vue de la perfection. Si vous voulez, gardez cette pensée-là de la maturité pour être équipé, pour être des hommes faits. À un moment donné, on a une armée, comme on voit dans, dans le livre des Nombres. Le peuple de Dieu avait beaucoup de jeunes hommes de 20 ans et plus. Ils étaient tous bien équipés pour être des soldats dans l'armée du Seigneur. Et ainsi, le Seigneur veut la perfection des saints. Il veut que nous soyons tous des hommes faits, des soldats dans son armée. Pas des jeunes bébés qui ne peuvent rien faire contre l'ennemi. Il veut qu'on puisse croître, qu'on puisse être équipés. Et cette perfection, cet équipement est pour l'œuvre du service. Ce n'est pas pour nous, pour donner un plaisir à nous. C'est pour que nous puissions servir, que nous puissions être utiles. La croissance spirituelle, ce n'est pas pour notre bon plaisir, c'est pour le bon plaisir du Maître. C'est pour que nous puissions être utiles pour le corps. Verset 12 le dit, pour l'œuvre du service. Le Seigneur Jésus, le plus grand, on a vu cela dans Luc 2 il y a quelques mois. Il a dit, je suis comme un serviteur au milieu de vous. Un serviteur au milieu de vous. L'apôtre Paul, il était un serviteur au milieu des croyants. C'est là le service qui est nécessaire. Est-ce qu'on veut être un serviteur? Est-ce qu'on veut, ou est-ce qu'on veut régner? La chair en moi veut régner. Mais si je veux suivre l'exemple du Seigneur Jésus, là, je veux servir. Et là, il y aura des fruits pour lui dans ma vie personnelle et aussi collectivement. Et là, il dit, le but est pour l'édification du corps de Christ. On est ensemble. La croissance spirituelle, on arrive maintenant à un niveau différent. Ce n'est pas seulement une question individuelle. C'est clair et certain que la croissance spirituelle est une question individuelle. Mais ici, dans ce contexte-là, on voit que Dieu a aussi en vue une croissance pour le bien de l'ensemble. Verset 12, pour l'édification du corps de Christ, pour que le corps puisse croître, grandir, devenir plus fort, plus grand. Pourquoi? Pour satisfaire au corps de Dieu. Pour satisfaire au cœur du Seigneur Jésus, pour pouvoir lui donner une réponse. Le Seigneur Jésus nous a tant aimés et il aime avoir une réponse de nos cœurs. Maintenant, je veux revenir à ces deux buts. Verset 13. Le but ultime, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Tantôt j'ai utilisé cette expression, un homme fait. Ici nous voyons que le Seigneur a à cœur que l'Église dans son ensemble serait vue comme un homme fait, qui a fait donc du progrès, qui a fait la croissance, et qui est arrivé maintenant à cet état. à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Quand est-ce qu'on va arriver à ce niveau-là? Ce ne sera pas avant l'enlèvement de l'Église. Pourtant, c'est un standard de Dieu. Si vous voulez croître, voilà. Si nous voulons croître, ça c'est le standard de Dieu, pour que nous parvenions ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Que nous puissions lui donner toute la place, on a vu cela avec Jean le Baptiseur, qu'on puisse l'aimer, le connaître, c'est maintenant encore par la foi, parce qu'on n'est pas encore dans la gloire, on est encore sur la terre, donc c'est une question de foi et de dévouement, comme on a vu, d'engagement, mais entre-temps, on va croître à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. La plénitude du Christ veut dire l'Église est remplie de lui. Quand est-ce que ce processus sera terminé? Lorsque l'Église va être tout à fait remplie de Christ. Le plan de Dieu est pour l'Église que l'Église reflète Christ. Aussi longtemps qu'il y a encore des éléments de la chair ou de moi-même, je ne reflète pas Christ 100%. L'Église va refléter Christ 100%. Christ va remplir l'Église, tous les membres, 100%. Ça, c'est le plan de Dieu. Maintenant, le plan de court terme, verset 14, il y a deux aspects. Un aspect négatif, pourquoi on a besoin de la croissance spirituelle? Regardons encore le contexte. Pourquoi on doit croître spirituellement? Verset 14 donne la réponse. Afin que nous ne soyons plus de petits enfants, de petits bébés. Il y a sept points là. Petits enfants, ballottés, emportés, ça et là, par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, cinquième point, dans leur habileté à user, de voix détournée, 6 et 7, pour égarer, septième point, égarer. Il y a là, donc, le plan de Dieu, court terme, pour que la croissance est nécessaire pour que nous ne soyons pas ballottés, emportés. Mais, d'une façon positive, verset 15, déjà maintenant, le Seigneur veut que, étant vrai dans l'amour, ça c'est une belle expression, vrai dans l'amour, ça veut dire la vérité, la lumière, va ensemble avec l'amour. Le Seigneur veut que nous soyons vrais dans l'amour. Il y a des frères qui sont très forts dans la vérité. On va maintenir la vérité. Mais il faut le faire dans l'amour. Il y a d'autres qui voient seulement l'amour et qui ne voient pas l'importance de la vérité. Là, il n'y a pas d'équilibre. On a ici un équilibre important. La grâce et la vérité. L'amour et la vérité vont ensemble. Et ça, c'est pour la croissance spirituelle, donc. Que nous puissions croître, vous voyez cela au verset 15, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui. Il nous attire, on croit jusqu'à lui, qui est le chef, le Christ. Tantôt, je veux lire encore un verset dans Colossiens 2, mais je veux finir ce passage. Il est le chef, donc on croit vers lui. La croissance est vers lui. Ensuite, verset 16, de lui, tout le corps, donc on reçoit de lui, duquel tout le corps, bien ajusté, lié ensemble par chaque jointure. Tantôt, j'ai dit, chaque croyant a un don. Ici, nous voyons dans le corps de Christ, chaque croyant est important pour cette croissance collective. C'est important que chaque croyant fasse des progrès. Chaque croyant fonctionne selon l'opération de chaque partie dans sa mesure. C'est impossible que vous dites, mais moi j'ai pas de don, moi je mets, si j'ai quelque chose, je le mets sous le tapis, je laisse faire, les autres s'en occupent. Non, chaque don est nécessaire, chaque membre est nécessaire. Chacun doit être impliqué dans ce travail pour produire, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps. Donc là, on voit comment la croissance spirituelle, ce n'est pas seulement une question personnelle, individuelle, c'est aussi une question collective pour opérer ensemble, sous le regard du Seigneur, et pour son bon plaisir, pour l'édification de lui-même en amour. Ce verset 16 donne au moins 7 points aussi par rapport à cette croissance. Ça, c'est donc croissance, le but court terme, négatif, positif. Et au verset 13, on a vu le but long terme. Encore un verset, dans Colossiens 2, verset 19, dans ce même contexte qu'on a vu tantôt, il y a une exhortation dans Colossiens 2, verset 19, pour tenir ferme le chef. Le chef, c'est le Seigneur Jésus dans la gloire. Nous devons tirer de lui tout ce dont nous avons besoin. Et la tête, si on va couper la tête, s'il n'y a pas de lien entre la tête et le corps est mort. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons morts spirituellement. Il veut que nous fonctionnions, que nous puissions fonctionner, mais pour cela, il faut tenir ferme le chef, et ensuite, de lui, le chef, la tête, on va recevoir les instructions, on va recevoir la nourriture, et on sera bien unis ensemble. De nouveau, l'aspect collectif, des jointures, des liens. Et qu'est-ce qu'on voit qui croit de la croissance ou de l'accroissement de Dieu? Dieu opère. On a vu cela avec Paul, 1 Corinthiens 3. C'est Dieu qui travaille, individuellement, collectivement. Maintenant, je veux terminer avec le cinquième point pour la croissance spirituelle. Et on va revenir à cela une autre fois si le Seigneur nous laisse encore ici. Mais je mentionne ce point déjà maintenant. La pratique de la croissance. La pratique de la croissance. Et là, on va parler d'autres passages une autre fois. Mais pour ce soir, juste un verset dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Donc on va terminer avec ce passage, le cinquième point pour la croissance spirituelle. Et c'est un passage très pratique. Peut-être vous avez dit dans votre cœur, dans votre pensée tantôt, mais ça c'est très compliqué ça, Éphésiens 4. Là, je ne peux pas comprendre cela. C'est trop compliqué. C'est compliqué. Qui peut comprendre, par exemple, le fonctionnement de notre cerveau avec ses millions, milliards de cellules? Ces cellules qui sont toutes interconnectées. Qui peut comprendre cela? Ça dépasse notre compréhension. Qui peut comprendre que chaque croyant est lié à Christ dans la gloire? Il est notre chef. Chaque croyant. Si tu es un croyant, Joël, tu es lié au Seigneur Jésus, comme moi. C'est merveilleux. Et en même temps, on est lié avec tous les autres membres du corps de Christ. Qui peut comprendre cela? Mais maintenant, pour terminer, une pensée plus facile à comprendre. Dans 1 Pierre 2, pour la croissance spirituelle, ça prend une pratique. Ça prend qu'on mette certaines choses en pratique. 1 Pierre 2, versets 1 et 2. Rejetant donc toute malice, et toute fraude, et l'hypocrisie, et l'envie, et toute médisance, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez, afin que vous croissiez par lui à salut. Mais vous dites, mais je suis déjà sauvé? Oui, mais gloire à Dieu. Mais la croissance doit continuer. Et le salut est un sujet très vaste. Ici, ça implique même le salut de nos corps. On sera enlevé de cette terre. Mais ça implique aussi la protection contre les ruses de l'ennemi. Mais je veux parler de la pratique de la croissance. D'un côté, un aspect négatif. Il y a 5 points là. Rejetant donc toute malice. Pour croître, pour faire des progrès à l'école de Dieu, pour apprendre du Seigneur Jésus, il faut pratiquer quelque chose. Il faut que moi je fasse quelque chose. Il faut rejeter toute malice, toute méchanceté. Peut-être vous avez de la haine dans votre cœur contre un frère, contre une sœur, ou contre votre boss, ou contre quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Il faut rejeter toute malice, toute méchanceté. Si vous gardez de la méchanceté dans votre cœur, vous pouvez couvrir peut-être comme les hypocrites, comme les pharisiens, mais il n'y aura pas de progrès. La deuxième condition, toute fraude. Le Seigneur Jésus était sans fraude. Et il a recommandé Nathanaël, qui était sous l'arbre, le figuier là, il a dit, voilà un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Il n'a pas parlé de mensonge. Est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas dit de mensonge cette semaine? Pas de mensonge blanc. Aucun mensonge. Si c'est le cas, on doit se repentir, on doit confesser cela et rejeter cela. Pas en disant, oh, je ne ferai plus ça, là. Ça c'est mauvais. Là. Non, il faut le rejeter. On n'a pas de puissance, on ne peut pas s'améliorer, on a besoin de l'aide du Seigneur Jésus, mais il faut que nous rejetions toute fraude, toute mensonge, toute menterie, mais aussi l'hypocrisie. On peut donner une bonne impression. Tout le monde peut penser, ça c'est un bon frère, là. Lui, elle est une bonne sœur. Et peut-être on se trompe pas mal. Parce que s'il y a de l'hypocrisie, c'est comme cette personne joue, comme un acteur ou comme une actrice, joue un rôle. Joue le rôle d'un frère ou d'une sœur, mais en réalité est quelqu'un d'autre. Le Seigneur ne veut pas ça. Il veut la sincérité. Il veut la réalité. Donc si on joue un rôle, si on joue un jeu comme ça, on ne va pas faire des progrès spirituels. Ou le quatrième point, s'il y a de l'envie, de la jalousie, peut-être il y a quelqu'un à l'école qui a des notes plus élevées. C'est pas facile à accepter. Moi, je veux avoir de plus belles notes, mais elle ou lui, il a des notes plus élevées que moi. Si on a de l'envie, de la jalousie, on ne va pas faire des progrès à l'école de Dieu. On ne peut pas croître spirituellement. Il faut juger cela. Et il y a un cinquième point, toute médisance. Peut-être vous dites maintenant, moi j'ai parlé en mal d'une sœur ou d'un frère, mais je ne le ferai plus là. Mais il dit, toute médisance, toute médisance. Est-ce qu'on peut dire, moi je ne suis pas coupable de ça. Moi je n'ai jamais parlé en mal d'un frère ou d'une sœur, d'un croyant. Donc, ces cinq points nous sondent, mais c'est une condition très pratique pour la croissance spirituelle. Maintenant, le côté positif au verset 2, désirer ardemment. On a un bébé, là, un petit là, mais pas un bébé, mais si vous voyez un bébé qui boit vraiment de sa mère, c'est impressionnant. L'intérêt de ce bébé-là, il vit seulement pour boire. C'est incroyable. Et ainsi, le Seigneur veut que nous puissions désirer ardemment, avoir cet appétit. Le Seigneur ne veut pas, il ne faut pas mal comprendre ce passage-là. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste des bébés, mais il veut qu'on ait ce désir, toujours, pour la parole. Et quelquefois, ça ne dit plus rien, là. On couvre la Bible, mais c'est bon pour le dimanche. Ou peut-être j'ouvre la Bible encore une fois par semaine et graduellement je n'ouvre plus la Bible. Là, on ne va pas faire des progrès. Ce désir n'est pas là. Il faut avoir ce désir comme des enfants nouveau-nés. La nouvelle naissance, Jean 3, on a vu cela. Il faut être né de nouveau. Et à ce moment-là, il y a un bébé et ce bébé a de l'intérêt pour la parole. Mais il faut cultiver cet intérêt, il faut garder cet intérêt, il faut cultiver cette relation avec le Seigneur, comme j'ai dit tantôt, comme le secret pour la croissance spirituelle. Et là, on va faire des progrès, afin que vous croissiez par lui, pas par la chair, pas par nos propres efforts, pas par l'intellect, pas par n'importe quel autre moyen. C'est seulement par la parole qu'on va faire des progrès. On a vu cela ce soir. Et verset 3, on ne l'a pas lu encore, mais je le lis maintenant. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. On revient au premier point. Une relation personnelle avec le Seigneur. On a goûté que le Seigneur est bon. Voilà le premier point. Une relation intime, personnelle avec le Seigneur. On a goûté que le Seigneur est bon. On l'aime. C'est pour ça qu'on veut croître dans sa parole. On veut faire des progrès. Voilà. C'est la pratique pour la croissance. Et Dieu voulant, une autre fois, on va revenir sur ce sujet-là, de la pratique. Et on va voir encore d'autres sujets, des empêchements, on va voir des entraves. Mais plus tard, Dieu voulant, je ne sais pas si ce sera la prochaine fois, mais après ça peut-être, on va parler du vainqueur. Le Seigneur veut que nous soyons des vainqueurs, qu'on fasse des progrès, qu'on monte contre le courant, par amour pour lui. Là, on va faire des progrès.